Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sigalit Lavonne et Ruben Honigman d'Academ. Bonsoir Sigalit et Ruben.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Sandrine.
Alors vous êtes respectivement Sigalit, directrice adjointe, Ruben, directeur éditorial d'Academ. Academ est une plateforme d'information culturelle en ligne dédiée à l'étude et à la diffusion de la civilisation juive. Elle a été fondée en 2005 et le site propose un large éventail de ressources informatives telles que des cours, des conférences, des documentaires et des entretiens couvrant divers aspects des humanités juives mais aussi des réactions à l'actualité. Les contenus sont proposés par des universitaires, des chercheurs et des experts renommés dans leur domaine. En bref, Academ vise à rendre accessible le savoir juif au plus grand nombre en permettant à chacun d'approfondir ses connaissances à son propre rythme et selon ses centres d'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord, Ruben, avec cette définition ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter ?
C'est parfait. Vous l'avez précisé, c'est un média qui existe depuis longtemps, 2005, 2006, quelque chose comme ça. C'est un média vieux et c'est en même temps un avantage et un inconvénient. Mais je préfère le tirer vers l'avantage, c'est-à-dire que c'est un média où on prend son temps. Un peu comme le peuple juif, c'est un vieux peuple, mais c'est aussi un peuple lent, qui ne cède pas toujours aux dernières modes, notamment idéologiques ou intellectuelles. Et donc c'est un média où on met un point d'honneur à faire du neuf avec du très très vieux, c'est-à-dire avec les textes de la tradition juive, avec l'héritage culturel et intellectuel et spirituel juif, et à faire résonner tout ça avec les sujets les plus actuels.
Alors Sigalit, on l'a dit, hein, 2005, bientôt 20e anniversaire. Est-ce que vous pourriez résumer la mission principale d'Academ et nous dire comment elle a évolué au fil des années ?
La mission d'Academ, au départ, ça s'est créé en même temps que YouTube en 2006. L'idée, c'est qu'il y avait une forte activité dans le monde juif, des cours, des colloques, mais qu'il n'en restait rien. Donc, c'est les fondateurs David Saada et Laurent Munich, au départ, qui se sont dit « on va filmer pour mettre en ligne et conserver et pouvoir diffuser plus largement le savoir juif ». Ça, c'est on a filmé énormément à l'extérieur et petit à petit, on a aussi filmé nos propres contenus. On a un studio de tournage où on crée maintenant des émissions. Donc, d'une plateforme de diffusion de savoir, on est devenu un média, on va dire. Aujourd'hui, la plateforme a été entièrement refondue depuis novembre 2023. Pour être véritablement une plateforme avec le fond des 20 dernières années. Donc, il y a des actes de colloque, mais il y a aussi toutes nos nouvelles émissions. Et là, je peux vous en citer. Il y a par exemple l'émission littéraire des 5 livres de Pierre Assouline.
Alors, on va revenir sur la programmation en particulier. Juste un mot sur vous deux et votre lien avec Academ. Ruben, vous avez rejoint quand l'aventure ?
Alors, moi, c'est à cause de Sigalit que j'ai rejoint ça, grâce à Sigalit. Moi, je suis arrivé un an, quelque chose comme ça, ou deux, je ne sais plus, après Sigalit, qui était déjà en place avec Laurent Munich. Moi, j'avais un double cursus, en fait. J'avais fait et de la yeshiva, de l'école juive, et de la yeshiva, et des études d'histoire à la fac. Et à un moment donné, j'ai reçu une newsletter d'Academ où ils disaient qu'ils recherchent des petites mains. Et j'ai envoyé mon CV. Ils m'ont dit que c'est très bien parce que ça correspond à l'esprit d'Academ, comme son nom l'indique, d'être en même temps académique et en rapport avec la tradition juive. Donc, j'ai commencé vraiment à faire des petites tâches comme ça. Et puis après, petit à petit, j'ai intégré l'équipe et j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui.
Voilà. Et vous en êtes aussi un des journalistes principaux.
Voilà, et j'anime moi-même des émissions, effectivement. Ouais.
Quand il est arrivé, il a été responsable d'un site qui s'appelle Melamed, qui est un portail pour les enseignants d'école juive. Et après, il a travaillé plus largement pour tous les projets d'Academ.
Exactement.
Alors, et vous, Sigalit, depuis le début l'aventure ?
Oui, moi, je suis arrivée pas au début du projet, mais au lancement du projet. Donc, je viens, j'ai fait des études, moi, de sociologie des religions. J'étais en thèse de sociologie. Je faisais un travail sur la différence des sexes dans le judaïsme sous la direction de Charles Mopsik. Après ça, j'ai travaillé quelques années au mémorial de la Shoah. Et voilà, et j'ai rencontré Laurent Munich qui cherchait quelqu'un pour rejoindre l'équipe au moment du lancement d'Académe. Et voilà comment je suis arrivée en 2006 sur ce projet.
Alors nous sommes en 2024, on voit que les contenus ont évolué hein, pour celles et ceux qui suivent. En résumé, quelles sont les valeurs qui guident les choix d'Académe et surtout, qui choisit les contenus et comment sont-ils produits? Enfin, c'est beaucoup de questions en
bon,
en
je
une.
L'ai partagé. Oui. Vas-y, commence, Yali.
Alors, la ligne, en fait, c'est de une ouverture, une fenêtre sur le monde juif. Donc, on fait parler toutes les obédiences au niveau religion, des plus libéraux aux plus orthodoxes, en passant par les mouvements juifs laïcs. Politiquement, c'est pareil. On va donner la parole à différentes opinions avec des lignes rouges. Évidemment, il n'y a pas l'extrême droite et il n'y a pas, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême gauche. En tous les cas, l'antisionisme et la ligne rouge. Voilà. L'idée, c'est que chaque juif puisse se retrouver et retrouver des ressources. Voilà, grosso modo, la ligne éditoriale avec une exigence universitaire. C'est pour ça que ça s'appelle Académe. Académe, c'est un jeu de mots entre académie, donc l'université, et Kadima en aller de l'avant. Au début, c'était précurseur, la vidéo en ligne.
Voilà. Donc, le dialogue, finalement, entre le Limoud et l'université. Comment on s'y retrouve entre les deux?
C'est aussi donner à penser l'actualité au prisme du judaïsme. Qu'est-ce que la pensée juive a à dire sur les phénomènes de société, que ce soit, par exemple, là, il y a eu le débat sur la loi de fin de vie, sur le racisme, sur
l'abattage rituel.
Voilà, c'est l'actualité au regard du judaïsme.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, comme vous avez prononcé le mot limoud, ça fait partie des choses dont je suis en charge à Académe. Et en fait, une des singularités, ce qui caractérise Académe, c'est connu, c'est qu'on a tous les courants du judaïsme. Nous, on est très heureux, on est assez fiers d'avoir été parmi les premiers à avoir Delphine Horviller, par exemple, sur Académe. Elle faisait partie de l'équipe de commentateurs de la Paracha il y a très 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 longtemps. Personne ne la connaissait et puis on a des archives, quoi. C'est notre côté INA du judaïsme dont on est très fiers. On a des milliers de vidéos de gens qui sont devenus très célèbres ou des gens qui sont complètement tombés dans l'oubli ou des gens qui sont décédés. Parce que quand on est un média qui a 20 ans, on a des gens comme Raphaël Drey, comme Benno Gross, dont on a des choses très importantes. Et donc, on reçoit des libéraux, des massortis, des monarques orthodoxes, des orthodoxes. Et ce dont on est particulièrement fiers, c'est que tout le monde trouve qu'on est soit trop l'un, soit trop l'autre. Les libéraux trouvent qu'il y a trop d'orthodoxes, les orthodoxes trouvent qu'il y a trop libéraux. Et ça, c'est pareil avec la gauche et la droite, d'ailleurs, et c'est souvent un signe de bonne santé pour un média.
Concrètement, pour une auditrice ou un auditeur de la fréquence juive qui n'aurait jamais été consulté à la plateforme Académe, qu'est-ce qu'on y trouve? Notamment dans le nouveau site hein, qui a été renouvelé depuis quelques mois.
Alors, la nouveauté de cette nouvelle plateforme, c'est que on a voulu faire une plateforme comme elles se font habituellement à la Netflix, Prime Video, enfin voilà, où il y a différentes chaînes et on va trouver différents types de contenus. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Académe, c'était de la vidéo. Aujourd'hui, on met aussi des podcasts, on produit des podcasts ou on diffuse des podcasts et on commence à publier des articles écrits, print. Par exemple, on a commencé à publier quelques articles de l'Arche, des derniers numéros, et on va bientôt mettre en ligne, petit à petit aussi, les archives de l'Arche. Et ça peut être d'autres, on va aussi sûrement mettre des articles de la revue K, par exemple, avec qui on travaille, et aussi nos propres articles. Donc voilà, on trouve cela, et on trouve aussi 20 ans de pensée juive. Un temps de pensée juive, d'études juives, de colloques, de cours sur toutes les thématiques, que ce soit de la philosophie, de l'histoire, de la musique, du théâtre, de la géopolitique, du limoud, dans tout ce qui a trait au judaïsme de près ou de loin. Et ça, c'est notre côté INA. Après, ce qu'on trouve depuis, on va dire, 2 ans, ce sont des émissions produites par Académ. Des émissions propres avec un décor spécifique où là, on se rapproche plus de la télévision telle qu'on la connaît. Voilà, et là, on peut en citer. Voilà, en fait, on appelle ça des collections ou des séries. Donc, il y a les 5 livres de Pierre Assouline qui connaît un beau succès. Enfin, les internautes ont commencé à... il y a une fidélisation. Mmh. Il y a En consultation avec Toby Nathan, où il s'agit d'une séance psychanalytique avec une personne. Alors ça, c'est peut-être notre côté un peu plus people, mais quand même par Toby Nathan, qui est ethnopsychiatre. On a une nouvelle omission aussi qui s'appelle, avec Jonathan Ayoun...
Ils en ont parlé.
Ils en ont parlé. Où on prend un sujet d'actualité. Là, la dernière émission qu'on a faite, c'était la gauche et les juifs. Voilà, on va faire la même chose avec la droite et les juifs.
Voilà.
On a aussi des séries, par exemple. On lance une série de petits clips sur chaque cliché antisémite. C'est Jonas Pardot, il prend un cliché ou des choses qui ont défrayé la chronique pour décortiquer, expliquer et montrer les ressorts de vieux tropes antisémites, mais réactualisés. Par exemple, la sortie de David Guéraud sur les dragons célestes, c'est pas évident à comprendre. Ou la blague de Guillaume Meurice, voilà. On a aussi une série, par exemple, sur tout ce qui est droit international, puisque depuis le 7 octobre, c'est très complexe. Donc nous, c'est toujours très pédagogique. Ça permet aussi... l'idée aussi, c'est de créer des parcours qui permettent d'avoir du matériel pour de la formation contre l'antisémitisme, dont chaque élu politique, par exemple, pourra se servir, ou des syndicats, ou enfin, voilà, c'est de mettre à disposition, dans les écoles, des petits clips aussi pour les jeunes, pour se comprendre, décortiquer ou se défendre et avoir les arguments.
Il y a aussi une newsletter hebdomadaire qui est très bien faite et qui nous donne des clés, des réflexions ou des ressources face à l'actualité. Comment vous la pensez, Ruben, cette newsletter ?
Je voulais juste compléter ce que disait Sigali dans la suite de ce qu'elle disait, c'est qu'on se vit un peu comme le service public juif audiovisuel. Et il y a quand même un détail qui a son importance, c'est que Académ est entièrement gratuit. Il n'y a aucune publicité, c'est pas comme sur YouTube où il faut attendre que la publicité soit passée, ignorer l'annonce, etc. Il n'y a aucune publicité, c'est entièrement gratuit, et ça c'est parce qu'on appartient à une maison mère qui s'appelle le Fonds Social Juif Unifié et qu'on est soutenu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Et c'est ce qui nous permet de rendre tout ce savoir accessible au plus grand nombre.
Alors, c'était une question que j'allais vous poser, ouais. Parce que c'est quand même une prouesse d'avoir accès gratuitement à autant de ressources et si bien conçues.
Oui, mais c'est le côté service public. Je pense qu'on rend service et qu'on est obligé de rendre service à... C'est pas, j'allais dire, la communauté juive, mais il y a quand même une grande part de nos auditeurs qui ne sont pas des juifs non plus. On le sait parce qu'on a un courrier des lecteurs qui est toujours très révélateur et intéressant à lire. Et il y a des chrétiens, il y a des gens curieux, je sais pas, compagnons de route, sympathisants du peuple juif, de la communauté de destin juive. C'est en gros un quart de nos auditeurs et on est très heureux de ça.
Et ça fait partie de notre objectif aussi.
Exactement.
Parce que c'est vraiment une fenêtre ouverte sur le monde juif. Donc des personnes qui seraient curieuses et qui ne seraient pas juives pourrait apprendre des choses.
Voilà.
Et on a une mission, je pense, importante aussi, c'est de pouvoir donner des ressources ou créer un lien avec des juifs complètement éloignés, ouais, de toute communauté. Parce que à Paris, on peut aller à des colloques, des conférences, mais il faut savoir qu'il y a des juifs en France qui se trouvent dans toutes les villes, dans tous les villages, qui sont seuls, qui sont déconnectés, qui sont très éloignés de leur judaïsme. Et qui, avec Académ, retrouve ce lien. Et là, je parle de la France, mais en fait, on reçoit des courriers du monde entier, ouais, où des Juifs vivent un peu partout et ils sont francophones et ils retrouvent ce lien avec Académ. Et ça fait partie de nos missions.
Et le Covid aussi est passé par là, avec ces nouvelles habitudes, ouais, hein, de, ouais, trouver de l'information depuis son ordinateur chez soi.
C'est vrai, mais le Covid est passé. Et puis, mais même avant le Covid, il y avait quand même... Moi, je rencontre souvent des gens qui disent « Académ, c'est ma synagogue ». Il n'y a pas besoin de religieux pour ça, au contraire, c'est des gens qui, même s'ils habitent à Paris d'ailleurs ou à Marseille, qui ne trouvent pas leur place en fait. on parle beaucoup d'inclusivité en ce moment, qui juste trouvent pas leur place dans un groupe juif ou dans la communauté juive, et parce qu'ils en ont marre des discours des rabbins, parce qu'ils trouvent que c'est des bondieuseries, ou parce que juste ils sont mal dans leur peau, je sais pas. Et donc Akadem, c'est un peu une maison aussi pour eux, où ils vont piocher leur contenu, on leur dit pas quoi penser. C'est quelque chose qu'on aime bien dire sur Akadem, c'est que nous on donne pas des réponses, juste on formule les questions. C'est Gad Elmaleh qui avait dit ça d'ailleurs, qu'il allait sur Akadem pour ça, pour approfondir les questions. Mais j'ai pas répondu à votre question sur les newsletters. Alors oui, les newsletters, effectivement, c'est une des locomotives d'Akadem. C'est comme ça qu'on communique. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de newsletters, Chol et Kodesh, profane et comment dire, sacré. Je n'ai pas de meilleure traduction. Religieuse. Je vais commencer par la classique, qui est celle qui est envoyée le vendredi matin, qui est un magazine dont est en charge notre estimée collègue Elisheva Gottferstein, qui nous a rejoint il y a 2 ans, qui n'est pas ici là, et sur laquelle on communique les nouveautés, mais aussi les archives. Voilà. On s'empare des sujets d'actualité. Évidemment, ces derniers mois, c'est les élections, l'extrême droite, l'extrême gauche, l'antisémitisme, mais aussi, bien sûr, depuis le 7 octobre, toute cette folie dans laquelle on est tombé. Et on jongle entre des contenus qui ont parfois 10, 15, presque 20 ans, mais qui ont rien perdu de leur acuité, et puis une dernière émission qu'on a enregistrée il y a 3-4 jours avec un spécialiste sur la question. Ça, c'est une part.
Oui.
Et l'autre part, c'est l'inoxydable commentaire de la paracha, voilà, qui part tous les jeudis matins. Erev Shabbat, et dans laquelle, pareil, on a une équipe de commentateurs de paracha de toute obédience qui se relaie. Il y en a 8 chaque année qui se relaient, hommes, femmes, petits, grands, libéraux, orthodoxes, israéliens ou français, mais le tout en langue française, et enrichi d'anciens commentaires de la paracha, de commentaires de la haftara, de conférences en lien avec les thèmes de la paracha. Et voilà, c'est un peu tout ce mélange qu'on envoie par courrier à nos lecteurs.
Alors ça m'inspire 2 questions, hein. Vous êtes là à la direction une femme et un homme. La parité, on a l'impression que c'est quelque chose qui est recherché et entretenu, notamment dans les commentaires.
Oui.
Et c'est ce qui fait aussi un peu le sel de Akadem.
Oui.
Combien de personnes travaillent à vos côtés? Comment vous les avez choisies? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms, Sigalit?
Alors, déjà, en ce qui concerne la paracha, quand on a lancé la paracha, c'était très important pour nous qu'il y ait des femmes. Ça n'a pas été facile au début, hein. Je pense qu'une des premières, c'était Pauline Bebe.
Oui.
On a reçu des courriers très violents. Enfin, voilà, elle a essuyé les plâtres et ça a été très compliqué. Aujourd'hui, l'affaire est entendue. 20 ans après, ça ne pose plus de problème. Mais voilà, au départ, aujourd'hui, on a la parité. Hein, et c'est même pas qu'on est soucieux de ça, c'est que ça se fait naturellement.
Mm.
Puisqu'aujourd'hui, il y a autant de penseurs juifs que de penseuses, de penseurs heureux. En ce qui concerne l'équipe, on ne pense pas en disant on va recruter un homme ou une femme, on recrute des gens compétents et qui rentrent dans la ligne d'Akadem. Mm. Il se trouve qu'en rédacteur en chef, il y a 2 hommes et 2 femmes,
ah oui,
par exemple, hein, Stéphane Bou, Ruben Honigman, Elisheva Gottferstein et moi-même. Sur l'équipe technique, c'est la même chose. On a Solène et Nino, on a Isaac Payon, on a un directeur technique qui est Michael Ben David. Voilà, donc en fait...
Et un responsable des réseaux sociaux qui est
Joseph Romano. En effet, voilà, donc on ne recrute pas en se disant un homme, une femme, mais la parité se fait parce que elle se fait naturellement, c'est le monde d'aujourd'hui, et voilà.
Et parmi les journalistes, les chroniqueurs, ceux qui dirigent les universités par exemple, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms?
Alors, on a, Sigaït en parlait tout à l'heure, l'émission littéraire, c'est Pierre Asseline, c'est quand même pas n'importe qui, donc on est très heureux de l'avoir parmi nos contributeurs. Toby Nathan sur le versant psychanalytique. On avait longtemps Steve Jourdain sur tout ce qui touchait à l'histoire, à la géopolitique. On a
Nathalie Cohen
sur l'histoire aussi.
Ariane Singer.
Oui, sur la littérature. Tout ça est très paritaire aussi.
Oui.
Qui on a d'autres? On a Hélène Adas-Lebel sur le théâtre, Samuel Blumenfeld du Monde sur le cinéma.
Laurence Aziza sur musique. La musique. On a une vingtaine, hein, donc de tête,
De contributeurs réguliers. Très riche, oui. Mais vous parliez des universitaires, et là, il y a eu un vrai changement, une bascule qui est importante pour nous, c'est qu'au début, quand Académ est apparu, et quand je dis le début, c'est vraiment de nombreuses années, Académ paraissait comme quelque chose de communautaire et il fallait vraiment courir après les universitaires pour les avoir sur Académ. Parce qu'ils avaient peur que ce soit un truc, pour être un peu familier, couscous merguez, quoi. Mm-hmm. Et que ça salisse, que ce soit pas à leur hauteur d'universitaire. Et bien la chose, elle s'est inversée. Maintenant, c'est eux qui nous courent après, sans aucune vanité, parce qu'on a montré qu'en fait, on a une exigence d'excellence académique et intellectuelle qui leur convient. Et puis maintenant, c'est pas nous qui courons après les universités pour filmer les colloques, c'est les universités qui nous contactent directement, c'est encore arrivé hier, pour qu'on envoie un vidéaste d'Académ. Et ça, c'est un objectif atteint pour nous.
Et on a des universitaires qui font le commentaire de la paracha. Ouais. Puisque le commentaire de la paracha sur Académ, ce n'est pas forcément des professionnels de la religion, ce n'est pas forcément des rabbins. Il y en a toujours un ou deux, mais c'est plutôt des personnalités du monde... du monde universitaire, ça peut être des philosophes, des psychanalystes, des historiens. Là, on a eu Sylviane Goldberg. Exactement. Cette année. On a eu qui en universitaire? Paul-Laurent Assoun. Enfin, ouais. Voilà, des personnes qui...
Claude Birman.
Ouais.
C'est une lecture de la société civile.
Et voilà. On travaille aussi depuis de très nombreuses années avec Shmuel Trigano et l'Université populaire du judaïsme. Et de la même manière, il y a huit enseignements, c'est ça?
Huit séries de cours.
Ouais. Cette année, je crois qu'on a même
on
plus
a,
de
on
femmes.
On a six femmes et deux hommes. Voilà. La parité n'est plus respectée sur Académ. mais ça, c'est très bien, en fait.
En fait, on prend des personnes brillantes. Et puis, y a certaines années, il y a plus d'hommes, d'autres années, plus de femmes. Mais... voilà.
En tout cas, on voit bien que c'est à l'image de la diversité de la judaïcité francophone. Mmh. Et vous en parliez. Est-ce que pour le public qui vous suit, c'est la même chose? Est-ce que vous avez des retours d'utilisateurs? Souvent, quand on est dans la diversité comme ça, il y a des critiques, hein, vous l'avez dit. Ouais. Est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que les choses ont évolué dans ce sens? Est-ce que vous avez fait des modifications pour tenter de satisfaire le plus grand nombre? Comment ça fonctionne?
Alors, déjà, la diversité, oui, il y a des religieux, il y a des personnes complètement laïques, athées, très éloignées du judaïsme. Et puis, il y a quand même les ashkénazes et les séfarades. Et ça, c'est pas rien,
c'est
comme
vraiment
diversité.
Pas parler, ouais.
On peut, sur Académ, trouver des contenus en yiddish. On peut trouver des contenus en ladino. Donc voilà, un juif de Meknès peut trouver énormément de ressources sur les juifs de Meknès, hein, un juif de Livourne, pareil. Enfin voilà. Donc il y a aussi cet éclectisme, on va dire, culturel et de l'histoire des juifs et du peuple juif qui est très 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 vaste. Après, c'était la question...
Non, c'était sur la diversité.
Oui, sur la diversité. Est-ce que ça vous fait évoluer ou modifier vos
contenus?
Mon
radio-trottoir hebdomadaire, en fait, je le fais le vendredi. J'habite dans le 19e arrondissement, un quartier très juif. Et quand je fais mes courses, comme vous l'avez dit, je fais des émissions sur Académ, donc les gens me reconnaissent. Et puis j'écoute, en fait, ce que les gens disent et qui ils sont aussi. Qui sont ces gens? Et dans un supermarché kasher, vous trouvez toutes sortes de juifs. Effectivement, des religieux ou pas, et des ashkénazes ou pas. Et les juifs aiment bien râler, bien sûr, qu'ils vont vous dire j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ci, mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils ont regardé l'émission, ils l'ont écouté, souvent en entier, vous voyez qu'il y a quand même, c'est pas juste du zapping, ça c'est le propre d'Académ aussi, on prend son temps, et bien sûr il y a des critiques, mais ça c'est toujours bien, et puis l'esprit critique et tout ça, ça fait quand même partie de la tradition juive, ça fait avancer, mais après on ne cale pas notre ligne éditoriale sur le courrier des lecteurs, quand même. Sinon on changerait toutes les 3 minutes en fait.
Non, l'idée c'est d'être éclectique, effectivement certaines personnes nous reprochaient, oui, je ne veux pas recevoir le commentaire de la paracha, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Le challenge aussi, c'est un petit peu qu'ils aillent finalement écouter un commentaire qui n'est pas fait par un rabbin et finalement s'y intéresser. Mmh. Alors que,
c'est le coup de
priori,
génie de trouver un universitaire reconnu et apprécié. Pour,
et on arrive à rentrer comme ça.
À trouver des transversalités après.
Exactement. C'est ça. Ouais. Après, là, je dirais où on a le plus de critiques, c'est plutôt sur la ligne idéologique.
Oui.
Parce que quand on diffuse un contenu on va dire plutôt chez Alain Marchav, on va recevoir des courriers assez virulents. Et quand on diffuse des contenus qui ont une ligne beaucoup plus à droite, on va recevoir aussi des courriers de l'autre côté. En fait, c'est plus sur la ligne idéologique et politique, et notamment depuis le 7 octobre, ouais. que les choses... Enfin, en France, en Israël, se sont polarisées. Et là, quoi qu'on fasse, si on tape sur l'extrême gauche ou si on tape sur l'extrême droite, on va recevoir de part et d'autre des courriers assez virulents. Donc là, on entend, on écoute, c'est intéressant. Maintenant, on continue justement de traiter tout et de...
C'est un espace démocratique, et tout le monde peut prendre la parole et puis se faire critiquer, dialoguer et avancer.
C'est ça.
Vous parliez tout à l'heure, et c'est important de le dire, hein, de la gratuité. Toutes les ressources sont accessibles gratuitement grâce à des partenariats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ces partenariats qui vous font vivre? Et la question qu'on peut se poser finalement, est-ce que c'est viable?
Ah bah, apparemment, parce que ça fait quand même, vous l'avez dit, bientôt 20 ans. On espère que ça va durer encore 20 ans. Il y en a deux. Nous, on est une maison mère qui est le Fonds social juif unifié, qui a été créé après la guerre et qui est, moi j'appelle ça un peu le ministère de la culture juive en France. La culture, mais aussi du social, ça aide énormément de gens. Et donc nous, on fait partie du pôle culture et médias du Fonds social juif unifié. Et puis, il y a la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui nous soutient, qui soutient beaucoup de projets en France.
Et Fondation du judaïsme français.
Et la Fondation du judaïsme français, qui sont les trois, on va dire, mastodontes qui nous soutiennent et sans lesquels Academ n'existerait pas.
Alors, c'est viable. En fait, nous, on n'est pas jugés. On a cette chance de ne pas être commercial. Donc, ouais. On n'est pas jugés sur nos chiffres, même si nos chiffres, je peux vous les donner, ils sont très bons, mais on n'est pas jugés là-dessus. Ce n'est pas sur l'audience, c'est sur la qualité. Donc, tant que les personnes qui nous soutiennent retrouvent la qualité qu'ils souhaitent et qu'on continue à faire notre mission, on est soutenu et voilà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En tous les cas, depuis 20 ans...
Alors, justement,
c'est un point important qu'elle souligne, Sigaïd, sur l'audimat. C'est-à-dire que nous, on n'a pas ce stress de l'audimat. Et c'est ce qui permet d'avoir un bon audimat, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous les matins à regarder les chiffres de façon obsessionnelle. Bien sûr qu'on se renseigne, bien sûr qu'on les regarde. Mais je veux dire, on n'a pas d'obligation d'atteindre 10 000, 12 000. Et parfois, on met des contenus en ligne qui font des audimats faibles, sur le coup. Mais on se rend compte avec les années que ça prend de l'importance et que ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis en ligne. Et ça, c'est un luxe qu'on a. Et qui est rendu possible par les gens qui financent l'Académie.
C'est pour ça qu'on peut, excusez-moi, c'est pour ça qu'on peut aussi mettre des actes de colloque sur des sujets très très pointus. On sait qu'on va avoir trois chercheurs dans le monde qui vont les regarder, mais c'est ça les archives de la pensée juive.
Exactement.
Et à côté de ça, ben, on va faire un entretien avec Gad Elmaleh et Toby Nathan qui va faire 3 millions de vues, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de récolter, d'archiver la pensée juive francophone.
Et d'enrichir l'existence juive. Ouais.
Vous parliez de chiffres. Est-ce que vous pouvez nous en donner? Combien d'adhérents pour la newsletter, par exemple? Combien de connexions hebdomadaires, est-ce que vous savez?
Oui, alors il y a 60 000 abonnés à la newsletter. Voilà. En 2023, il y a eu 700 000 internautes uniques et c'est 3 millions de pages vues. Voilà, en 2023. Donc c'est des chiffres tout à fait
honorables.
Honorables. Sur la tranche d'âge, c'est vrai qu'on avait une tranche d'âge un petit peu âgée parce qu'en fait, Académie, il faut du temps. C'est des contenus longs. Donc, on avait une tranche d'âge plus au-dessus de 60 ans. Donc, on a travaillé là-dessus quand on a vu qu'on n'arrivait pas à assez toucher les jeunes. On a fait des formats plus adaptés aux jeunes, c'est-à-dire plus courts et plus en format réseaux sociaux et en format, on va dire vite fait, combini, mais avec du contenu Académ. Donc, c'est des petits clips. Et on a rajeuni la cible, puisqu'aujourd'hui, la tranche d'âge la plus importante sur Académ, c'est entre 25 et 54 ans. Donc, on a quand même réussi ce pari à toucher des gens qui n'ont pas forcément le temps dans leur vie active, familiale et sociale. Voilà, donc...
Est-ce que le 7 octobre, ça a changé quelque chose? Est-ce qu'on a davantage soif de savoir, de connaissances pour lutter contre les obscurantismes, d'avoir des notions, par exemple, sur le sionisme, sur les origines de l'antisémitisme ou simplement l'histoire de la Palestine. Bah,
le 7 octobre nous oblige encore plus que d'habitude, parce que ça a donné lieu à une explosion d'antisémitisme. C'est un phénomène marrant, d'ailleurs, dans l'histoire, hein, vous qui êtes historienne. Plus on s'attaque aux juifs, et plus il y a d'antisémitisme. On s'attendrait à ce que ce soit le contraire. Bon. Et bah voilà, vous citiez ces séries. On a une obligation de pédagogie, en fait. Voilà, on fait ce qu'on peut avec les armes qu'on a et les outils qu'on a. Donc, on a quelqu'un comme Denis Charbit, qui est un historien et qui explique aux gens c'est quoi le sionisme, c'est quoi l'antisionisme aussi, c'est quoi la Palestine, c'est quoi le mot apartheid, c'est quoi le mot génocide. On a Yann Jurovitz, qui est un juriste international, qui nous explique pareil, mais du point de vue du droit. Après, ceux qui ne veulent pas entendre, ils n'entendront jamais. Mais il y a toute une zone grise de gens qui sont ni antisémites, ni philosémites, et qui juste sont ignorants ou qui n'ont pas les outils. Bah, ils peuvent aller sur Academ et se renseigner. Et on essaie de.
Mais alors, le 7 octobre, oui, ça a changé beaucoup de choses déjà. Il faut dire que quelques jours avant le 7 octobre, pendant la nuit de Kippour, on a subi un hacking très, très féroce. On a perdu énormément de données, enfin l'ensemble du site. Donc ça a été très très compliqué on a retrouvé nos ressources, mais il a fallu créer un nouveau site, cette nouvelle plateforme qu'on devait créer en une année, la créer en un mois. Donc ça a été très difficile et le 7 octobre est arrivé dessus. C'est peut-être pas un hasard que tout soit arrivé en même temps.
Vous avez porté plainte contre le hacking?
Oui, bien sûr.
On
bien
sait
sûr.
Qui est à l'origine?
Alors,
on soupçonne Radio Shalom.
Non, il y a eu une plainte en Israël, il y a eu une plainte en France. Il y a des enquêtes, on ne saura sans doute jamais, parce que ce sont des enquêtes très compliquées, qu'il y a eu énormément de hacking au même moment. Et voilà, on a des hypothèses, mais voilà...
La question peut être un peu tirée par les cheveux, mais on se dit quelques jours avant, est-ce que ça aurait pu être planifié et lié au 7 octobre?
Le fait que ce soit pendant la nuit de Kippour, c'est effectivement, ça donne un indice qu'ils savent qu'à ce moment-là, on n'est pas connecté, que notre hébergeur, il n'est pas connecté et qu'ils ont le temps. Voilà. C'est comme quand on cambriole une maison, quand les gens sont en vacances, on sait qu'il y a ils ont le temps. Donc, ils savaient. Après, oui, on peut émettre l'hypothèse que ce n'est pas anodin, mais on n'a pas la certitude, donc on va... on n'a pas la réponse, on ne peut rien dire là-dessus tant qu'on n'a pas de certitude. Ce que ça a changé le 7 octobre, en tous les cas, c'est que on a dû produire beaucoup beaucoup plus de contenu lié au 7 octobre et qu'on a malheureusement puisqu'on veut pas se démultiplier produit moins de contenu littéraire musical. On a plus fait d'émissions sur la cuisine, enfin tout ce qui avant faisait aussi la richesse d'Academ et qui on avait l'impression que c'était décalé, que tout ça a été décalé, donc le 7 octobre a pris beaucoup de place dans la production et en délaissant, par la force des choses, la culture juive, en fait. Maintenant, les internautes, peut-être, ont besoin à nouveau de ça, mais c'est vrai que ça a eu cette conséquence d'avoir... on a continué les émissions littéraires, mais on a moins parlé de littérature et de... Voilà.
Alors, comment vous envisagez l'évolution de la plateforme dans les semaines, les mois, les années qui arrivent? Qu'est-ce que vous aimeriez introduire ou faire de nouveau et d'inédit?
Alors, on aimerait reprendre, parce que le hacking a mis fin à ça, à un pan très important d'Academ dont on n'a pas encore parlé, qui est l'Academ Scope, qui est l'agenda en ligne d'Academ, où on met à disposition des internautes tous les événements auxquels ils peuvent se rendre dans le monde francophone qui ont un rapport avec la culture juive. Le piratage a détruit ça, mais on va le remettre en ligne
dans
à la rentrée.
Dans quelques semaines.
Dans quelques semaines, voilà. Et là, il y a beaucoup de gens qui attendent ça, parce qu'il y a plein de gens qui organisent leur week-end, leur semaine, leurs vacances même, en fonction du festival de Klezmer de je ne sais pas où, et etc. Qu'est-ce qu'il y a
on
d'autre?
On va lancer une application qui est aussi quasiment aboutie, donc que les internautes pourront télécharger sur leur Apple Store ou Android s'ils ont Android. Donc ça, on fera une communication quand ça sera possible et ça permettra de télécharger des vidéos et de les regarder hors connexion, de relancer les podcasts comme il y avait avant. De continuer à inventer des émissions, à inventer des formats.
À traduire aussi, ça c'est important.
À traduire, on sous-titre de plus en plus en anglais des contenus. Alors là aussi, on a une aide du Joint pour cette mission de sous-titrage en anglais, pour notamment donner aussi des ressources aux communautés européennes qui n'ont pas beaucoup de ressources, c'est-à-dire s'ouvrir, s'européaniser. Voilà, donc filmer aussi des contenus en anglais ou en allemand, enfin dans différentes langues, et les sous-titrer.
Est-ce que c'est pas génial, compte tenu de ce que vous nous avez expliqué de votre formation, d'être au quotidien plongé dans la culture, dans les conférences, dans les réactions à l'actualité, de discuter avec des gens passionnants de tous les horizons?
C'est une grande chance, on se rencontre tous les jours, c'est une grande responsabilité, mais une très grande chance de faire ce métier. Enfin, on est ravis. Ouais.
On a beaucoup de chance, on peut le dire. Beaucoup de chance.
Je dis souvent à des amis des gens que je rencontre qu'il n'y a pas un jour, je crois, où on ne rencontre pas dans nos locaux quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire, qui nous instruit.
Quelle a été la meilleure rencontre ou le souvenir le plus marquant ou le plus insolite?
Pour moi?
Pour vous?
C'est marrant, vous voyez, parce que moi, il y en a eu deux. La première, c'est Adine Steinsaltz, qui est décédée il y a quelques années et qui était venue à Academ. Et humainement, j'ai trouvé cet homme incroyable. Évidemment, on sait que c'était un Talmid Chacham et un très grand sage et tout ça. Mais humainement, voilà, c'est le moment où on se rend compte que les très grands sages, en fait, sont aussi de très grands êtres humains. C'est quelqu'un qui s'adressait au moindre stagiaire. Enfin, chaque rencontre pour lui était un événement. Voilà. Et la deuxième, pour moi, c'était une personne qui n'est pas juive, qui est Jean-Luc Nancy, un très, très grand philosophe. Adine Steinsaltz de la philosophie, qui est aussi décédé il y a quelques années, que j'avais eu l'honneur d'interviewer. Et c'était pareil, en fait. Je n'ai pas été surpris par sa fulgurance intellectuelle, ça c'était évident. Mais pareil, je veux dire, il était d'une simplicité et d'une humanité qui m'a beaucoup marqué.
Voilà. Ah, c'est les deux facettes d'Academ. C'est
absolument, ouais, j'y ai même pas pensé.
L'universitaire,
c'est
et puis c'est le grand rabbin, tout à fait.
Ouais, et le juif pointu. Et le non-juif
et
aussi.
Et
c'est,
en plus,
c'est vrai,
ouais.
C'est vrai, j'y ai même pas pensé. C'est vrai.
Et de votre côté, Sigalit?
Moi, j'ai été aussi beaucoup marqué par Adine Steinsaltz. Je peux réécouter ses interviews. On a notamment une interview où il commence avec Michel Jodorowsky à parler en yiddish, tous les deux. Et après, il passe en hébreu. C'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé travailler des années avec Raphaël Drey, qui nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie des personnes. Quand il venait, je savais que la conférence, l'entretien qui allait se dérouler allait être très fort.
Oui. C'est un grand intellectuel qui nous manque aujourd'hui dans ces moments si tendus. Alors, comment on fait concrètement? On vous a entendu, on a envie de découvrir Academ. Qu'est-ce qu'on fait?
On s'abonne à la newsletter. Donc là, il suffit d'aller sur la plateforme academ.org. Et puis après, on va fouiller. On va fouiller, on va regarder. On a sur le site, on a toutes nos nouveautés. Et après, on peut aller fouiller sur toutes les chaînes. Il y a un moteur de recherche qui est encore en cours de construction. Donc, certains pourront dire qu'il ne fonctionne pas encore bien, mais il évolue. Et voilà, donc je leur conseille de s'en servir, de chercher.
Alors, on redit Academ avec un K, parce qu'il y a une plateforme pour les universitaires avec un C.
Non, c'est donc academ.org.
Tout simplement.
Et on est aussi présent sur tous les réseaux sociaux. Donc, on peut aussi s'abonner et rejoindre toute la communauté de fidèles qui nous suit sur... Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, etc.
Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, chacun à votre tour, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de aller visiter Academ, la plateforme, qu'est-ce que vous leur diriez? En une ou deux phrases, vraiment très court.
Alors moi, en venant ici sur mon vélo, j'ai pensé à ce petit dessin-là de Johannes Farr, que tout le monde partage depuis le 7 octobre, où il a écrit « Am Israël Chai », je crois, ou « Israël Chai », le peuple juif est vivant. Et je me suis dit, Akadem, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, l'intérêt que suscite Akadem, c'est la trace, c'est le symptôme aussi de la vitalité et de l'increvabilité du peuple juif. Et on est dans une période compliquée, et consommer Akadem, si je peux dire, et contribuer à Akadem, ça fait partie, en fait, du maintien en vie du peuple juif.
Voilà. À consommer sans modération.
Désolé pour le caractère grandiloquent de ce que je viens de dire, mais voilà.
Et vous, c'est Galit ?
Je dirais qu'Akadem, ça n'a pas d'équivalence, ni en France, dans d'autres religions. Les protestants ont essayé de nous copier, ils ont fait un portail qui est bien, mais c'est pas Akadem, et ça n'a pas d'équivalent non plus à l'international. Je dirais que Akadem, c'est une nourriture intellectuelle et spirituelle. Voilà. C'est de la même manière que on va aller dans un très bon restaurant se nourrir, et ben Akadem, pour se nourrir intellectuellement et spirituellement, on y trouve des très, très, très bons menus, et il vaut mieux passer du temps sur Akadem que sur la télévision.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, je dois dire à titre personnel que je connais les différentes facettes d'Akadem, parce que je vous remercie, vous avez accepté de m'interviewer pour deux de mes précédents ouvrages, et que parfois, quand je prépare des cours, je vous l'avoue, eh bien, je remonte dans vos archives et je vais regarder tel ou tel sujet.
Eh ben, la boucle
quand on
est bouclée.
Parle de Napoléon, quand on parle de sujets spécifiques par rapport à un ghetto ou un soulèvement, etc., et que c'est vraiment très bien fait, parce que ce n'est pas trop long, et que c'est toujours de qualité. On sait qu'il n'y aura pas de désinformation ou de choses un peu bancales. C'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, merci pour ce site, et j'invite évidemment toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom qui ne connaîtraient pas encore Akadem de participer de cette aventure. Bonsoir et à bientôt.
Merci pour votre invitation.
Merci Sandrine de nous avoir invités.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.